Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous allons évidemment beaucoup parler de Bernard Tapie. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous voulez réagir, nous raconter, nous dire si vous l'avez rencontré, quels souvenirs vous aurez, vous garderez de lui. On va en parler ce matin avec Christian de Villeneuve, bonjour.
Bonjour.
Journaliste politique, Michel Taupe, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort.
Bonjour.
Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour. Alexis Bachelet, maire adjoint de Colombes. Bonjour.
Bonjour.
Ancien député PS, aujourd'hui chef d'entreprise. Et puis tout à l'heure, nous aurons Hassène Amou qui sera avec nous depuis Marseille pour nous parler de l'ambiance à Marseille, de ce qui se passe et de ce qui peut se passer pour témoigner, pour rendre hommage pardon, à Bernard Tapie. Bon, on va peut-être commencer avec ce que vous retiendrez les uns et les autres de lui. On évoquera évidemment d'autres sujets, la pédophilie dans l'Église, la campagne électorale qui accélère. Quels souvenirs vous garderez de lui, Sophie ? Vous le connaissiez ?
C'est très compliqué, je le connaissais très très bien. Mon mari avait travaillé 3 ans avec lui. Et c'est un personnage absolument incroyable, parce que c'est... Bon, on dit chef d'entreprise, oui, évidemment, ambition, c'était génial, ça donnait envie d'entreprendre à plein de gens, mais c'était complètement autre chose. C'était un acteur, c'était un chanteur, c'était un personnage, c'était un sportif, c'était... Je peux pas m'empêcher de faire en même temps un coup de cœur pour Dominique, sa femme, parce que ça a l'air bête à dire, c'est sa deuxième épouse, mère de leur fille Sophie qui chante. Elle a tenu Bernard Tapie. Mais quand je dis tenu Bernard Tapie, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. C'est une colonne vertébrale. Ouais. Quand il a fait quand même quelques mois de prison, elle était là tous les jours. Elle l'empêchait de faire certaines choses. Et un couple extraordinaire.
Elle l'a empêché de retourner en politique.
Oui, hein. Interdit. Ouais. Pas empêché, c'est interdit. Ouais. Et donc, c'est forcément la vie, si vous voulez. Vous savez, il y a des trucs, on vous marche sur la queue et vous redressez la tête. Je veux dire, il était invincible. Et je crois que c'est un hommage à la vie, Bernard Tapie, avant toute chose. Il voulait gagner. Alors, c'était marrant parce qu'il aimait l'argent. Il a réhabilité un peu l'argent. Alors, vous me direz que ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux tout le temps. Mais je trouve que c'est important. Nous sommes un pays qui est fâché avec
pas
l'argent.
Pas toujours manière...
Vous avez tout à fait raison.
Oui.
Vous avez tout à fait raison. Cela dit, entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie, je préfère encore Bernard Tapie. Hein. Au moins, il prend des risques.
Oui, oui. Non, mais voilà. Mais chef d'entreprise, en tout cas, qui a pour le coup mis l'entreprise
oui,
à une époque où on n'en parlait pas beaucoup.
On n'en parlait pas du tout. Il a donné envie aux jeunes d'entreprendre. Il leur a dit que c'était facile. Il leur a dit qu'il fallait qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'il faut quand même aussi le dire. Il a fait Ambition, qui a été la seule émission pratiquement qu'on ait faite pour ça. Et puis... Il a incarné l'entreprise. Regardez, aux États-Unis, ils ont des héros. Il y a Elon Musk.
C'est un héros français, lui.
Oui.
C'est le Belmondo des entreprises.
Exactement. C'est le bon mot.
Oui. Belmondo des entreprises, vous diriez comme ça.
Oui.
Christian de Villeneuve.
Non, alors moi, j'ai eu deux périodes avec Bernard Tapie. Quand j'étais le patron de la rédaction du Parisien, j'avais régulièrement des coups de fil musclés. Une fois sur deux ou deux fois sur trois, l'un des deux raccrochait.
Parce qu'il n'était pas content des articles.
Il n'était pas content d'un article. D'abord, il appelait le journaliste. Après, il m'appelait. Et après, il appelait mon prédécesseur avec qui il avait des relations plus étroites. Mais d'abord, ça a été ma période quand je dirigeais le Parisien. Après, je l'ai vu il y a 18 mois, où je voulais faire avec lui un livre, un dictionnaire de la vie, c'est-à-dire de décliner sa vie selon un abécédaire. Et donc, je suis allé le voir dans son hôtel rue des Saints-Pères. Alors, la première chose, sur le pas de la porte, il me dit « Ah, je vous connais
bon. !» Ah oui,
tout de suite la pression. Mais bon, j'ai été frappé, c'est par son intelligence. On parle beaucoup de l'homme d'affaires acrobatique, tout ça. Parce qu'il n'avait... Alors, il ne voulait pas faire un bilan de sa vie. La seule chose qui l'intéressait, c'était l'instant présent. Et la seule chose qui l'intéressait, c'était la lutte contre son cancer. Et ce qui m'a frappé, c'est sa connaissance scientifique, sa connaissance médicale. Il challengeait...
Il bossait sur le cancer.
Ah, complètement. Il challengeait complètement ses médecins.
Ah, oui.
Il cherchait tous les... Quitte à être cobaye, il cherchait à tous les protocoles les plus impossibles. possible. Et il est allé dans Suivrin en Belgique.
Oui.
Non, il était. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Moi, je trouve que Bernard Tapie, il a formidablement réussi la fin de sa vie.
Mmh. Parce que moi, j'ai connu le début de sa vie.
Et voilà. Oui, les années,
mais effectivement, il serait mort il y a une quinzaine d'années.
Il n'y aurait jamais eu cette émotion. Il n'y aurait jamais eu cette couverture.
Oui, enfin, on a une grande spécialité, c'est d'aimer les gens dès qu'ils meurent.
Je veux dire,
c'est insupportable.
Non, mais la façon. Tout le monde se.
Rappelez-vous Jacques Chirac, qui, lorsqu'il était président, était honni et qui, effectivement, dans les 10 dernières années de sa vie, était le personnage le plus aimé des Français, ou presque. Non, moi, ce que je veux dire.
Michel, oui. On ne va pas avoir le temps parce qu'on va marquer une pause pour le journal, mais Alexis Bachelet, vous allez nous donner votre souvenir de Bernard Tapie, celui que vous garderez. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le Facebook de l'émission, le Twitter et au 0826 300 300. On est avec vous sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Voilà, les débats avec vous, 0826 300 300, avec Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, Christian de Villeneuve, journaliste politique, Michel Taupe, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, et on a en ligne avec nous Hassène Hamou, responsable associatif, fondateur du collectif marseillais Trop Jeune pour Mourir. Alors, hommage à Bernard Tapie, on va en parler ce matin. On va parler également de ce rapport qui va être rendu demain à propos de la pédophilie dans l'Église catholique. Et puis, on parlera évidemment de la campagne. Mais bon, on voulait dire quand même ce qu'évoquait Bernard Tapie pour chacun d'entre vous. Peut-être à Hassène Hamou, comme vous êtes avec nous à Marseille, est-ce qu'il y a une ambiance, au-delà du fait qu'il y a un déluge et que la région est en alerte rouge, est-ce qu'il y a une ambiance particulière à Marseille, des manifestations pour un hommage à Bernard Tapie? Non, on n'a pas Hassène Hamou. Hassène n'est pas là. Pardon. Alors,
vous
Michel,
m'entendez?
Oui, on vous entend.
Allô?
Oui, on vous écoute. Hassène.
Oui, donc je disais ici, tout le monde se souvient, tout le monde vient donc au Stade Vélodrome, puisqu'il a été installé une photo de Bernard Tapie, donc les témoignages se succèdent. On a vu des personnes aussi en pleurs, les images de cet hommage qui va continuer d'ailleurs toute cette semaine, où les gens vont pouvoir aller au Stade Vélodrome. D'ailleurs, la famille veut que Bernard Tapie puisse également faire un dernier, on va dire, bras d'honneur en rentrant dans le Stade Vélodrome. Je pense que c'est jeudi, si mes infos sont bonnes. Et donc, effectivement, il y a cette ambiance particulière qui a touché l'intégralité de la ville, et j'ai envie de dire, les gens se souviennent, les nouvelles générations aussi. C'est un homme qui a traversé les générations, donc c'est les plus grands qui expliquent aux plus petits, et c'est quand même extraordinaire.
Oui, vous avez quoi comme souvenir en tant que Marseillais?
Je vais vous faire une petite confidence. J'ai partagé un combat politique avec Pape Diouf et j'ai rencontré Bernard Tapie, fut un temps, au moment où il reprenait la Provence, et c'était au Sofitel à Marseille, où il avait quelques habitudes. Et je me souviens l'avoir vu, j'étais avec le président du club de foot Consola à Marseille, dans le quartier Nord, et il était très en colère contre Guérini, qui avait décidé d'enlever un certain nombre de pages publicitaires dans le journal La Provence, puisqu'il estimait que ce journal lui portait à tête. Et donc, l'avait Tapie pendant... On venait le rencontrer sur la question des clubs amateurs, et il était tellement en colère qu'il nous a parlé de ça pendant au moins 30 à 40 minutes. Mais bon, c'était Tapie, quoi. Donc, c'est un homme vrai, c'est un homme qui avait une grande gueule, qui faisait partie du paysage marseillais, et qui était un homme extrêmement influent ici aussi. Donc, pour nous, Tapie, hier, enfin, tous les témoignages qui se sont succédés, ses amis depuis 24 heures, j'en parlerai peut-être pas aussi bien qu'eux, mais on a tous un souvenir, une anecdote avec Bernard Tapie, c'est ça qui est extraordinaire.
Oui, alors, Christian, puis après je vais donner la parole.
C'est vrai que le temps du deuil, on respecte et on ne sort pas les mauvaises affaires. Mais ce que je trouve étonnant, c'est qu'on ne rappelle pas du tout qu'après le scandale VAOM, L'OM en question était ruiné et est descendu en seconde division.
Oui.
C'est ça, on ne l'évoque pas du tout quand même.
Alors mon cher Christian, il y a ce matin, Luc Ferry qui citait, et je trouve ça superbe, Lénine sur Jaurès, qui le jour de sa mort a dit « En dire du mal aujourd'hui serait maladroit, en dire du bien m'est impossible ».
Alors, Sophie, comme je n'ai pas encore parlé, j'aimerais saisir l'occasion de dire ce que je retiens de lui. Moi, je pensais que vous l'encenseriez pour une seule raison, Sophie. Vous êtes la fondatrice de J'aime ma boîte. Et je pense que s'il y a une personne qui aurait pu être votre président d'honneur, c'est bien Bernard Tapie qui a fait effectivement des boîtes françaises un peu les champions de notre pays. Donc ça, c'est en passant. Mon souvenir de Bernard Tapie. Alors moi, je l'ai pas connu comme vous, Sophie et Christian, mais ce dont je me souviens, c'est tout simplement, j'avais 16 ans, entre 16 et 20 ans, donc j'étais téléspectateur, comme des millions de Français, et j'ai découvert Bernard Tapie à travers deux expériences. L'émission Ambition, 86, qui effectivement a été une petite révolution médiatique et politique quelque part, parce que faire de l'entreprise, de l'esprit d'entreprise, le sujet à la mode, ça a été la réussite de Bernard Tapie. Et la deuxième chose, c'est deux ans avant, et ça, j'aimerais citer ce qu'a dit Bernard Hinault, et c'est lui qui a donné une seconde chance à Bernard Hinault, qui avait déjà gagné 3 Tours de France et qui était un peu dans le creux de la vague, en créant l'équipe La Vie Claire. Et moi, j'ai connu Bernard Tapie, j'ai découvert Bernard Tapie lorsqu'il a créé cette équipe extraordinaire, ce duo entre Bernard Hinault et Greg LeMond, et qui a été extraordinaire. Et Bernard Hinault a dit une chose incroyable, il était comme nous. C'est-à-dire que c'était un grand champion, un grand champion sportif, économique, politique, etc. Mais il était la trempe des plus grands champions. Mais en même temps, la face un peu plus sombre, entre guillemets, c'est que quand Bernard Hinault dit, pour Bernard Tapie, il y avait les gagnants et les perdants. Il était des gagnants. C'est quand même une conception... effectivement très violente, très dure de la vie en société. Et on a tous entendu des témoignages de ce que Bernard Tapie savait être un homme très dur aussi, et même très violent avec certaines personnes. Donc voilà, c'était tout ça Bernard Tapie, mais c'était quand même surtout le champion de l'esprit d'entreprendre. Et je pense que franchement, il manque aujourd'hui des Bernard Tapie pour faire de l'esprit d'entreprendre une des grandes valeurs de notre pays.
Alors, Alexis Bachin ne vous a pas entendu. Je vais vous lire la remarque d'un de nos auditeurs. De surprenante et imposante à géographie de Tapie depuis hier sur l'ensemble des médias. Même Belmondo, Marielle Tavernier, etc. n'ont pas eu le droit à tant de temps d'antenne.
C'est bien sûr les invalides.
Son parcours d'entrepreneur à l'américaine en a inspiré plus d'un malgré tout. Mais on peut s'interroger sur cet hommage quasi national aux allures d'agiographie. Vous en pensez quoi, Alexis ?
Ah, j'en pense que c'est pas le jour pour dire du mal de Bernard Tapie.
C'est pas du mal, mais c'est l'unanimisme dont on peut dire du mal.
Non, du mal, enfin du mal, pour faire un portrait nuancé. Voilà. Ouais. Je vais être plus précis. Ceci étant dit, il y a une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut citer Bernard Tapie lui-même. Si vous voulez, comme ça, on ne pourra pas être accusé de faire du mauvais esprit. Donc, Bernard Tapie, en 1983, disait de lui, « On sait que je suis un affairiste, mais ce n'est pas dangereux car je le porte sur ma gueule, je ne trompe personne ». Donc effectivement, Bernard Tapie, c'est d'abord dans les affaires qu'il a commencé. Au fond, c'est quelqu'un qui est un personnage romanesque. Moi, je garde un souvenir, mais bon, c'est aussi une question de génération. Moi, j'ai pas connu Ambition, tout ça, les années 80, j'étais trop jeune. Par contre, moi, j'étais devant ma télé, comme des millions de Français, le 26 mai 1993, quand l'OM a remporté la Ligue des Champions. Et donc, moi, ce que je garderais... de Bernard Tapie au fond de moi en tant que passionné de sport, de football, c'est que l'OM a été le premier club français à remporter la Ligue des Champions. Et donc ça, comme disent les Marseillais, à jamais les premiers, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais retirer ni à Tapie ni aux Marseillais d'ailleurs. Après, effectivement, c'est un personnage haut en couleur, hors norme. Mais ce que je trouve assez étonnant en fait dans son parcours, c'est que c'est quelqu'un, quand vous regardez, qui est un homme aux passions multiples, mais qui fait les choses à 100%, qui veut réussir dans tout ce qu'il entreprend, mais finalement, il se lasse des choses et il passe à autre chose quand il a réussi. Parce qu'il reprend des boîtes pour ensuite les revendre. Quand ils réinvestissent cet argent dans le cyclisme, ils montent une équipe de cyclisme, ils gagnent le Tour de France, ils gagnent le Tour d'Italie, puis après, ils passent à autre chose, ils vont dans le foot, ils montent l'OM au plus haut niveau, etc. Et un peu dans, et dans la politique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'engagement. On va dire qu'il y a des gens qui sont passionnés par le sport et ils font ça toute leur vie, par la politique, et ils s'engagent pendant des années, des décennies. Et lui, il a tout fait en accéléré et il est passé d'un sujet à l'autre. Et finalement, c'est ça qui le rend un peu exceptionnel et qui faisait aussi de lui une figure atypique et médiatique, parce que je crois qu'il y a aussi quelque chose qui doit être perçu dans la personnalité de Bernard Capi, c'est qu'il était un des premiers à comprendre le rôle de la télévision, des médias et le poids que ça représentait dans la société, alors qu'on sortait de l'époque de l'ORTF dans les années 70. Lui, il a crevé l'écran. Dès qu'il est passé à la télévision, il a crevé l'écran et il avait aussi envie d'être reconnu. Et je crois qu'il a atteint ses objectifs.
Absolument. Hassan, vous vouliez dire un mot ?
Non, mais simplement, voilà, c'est un homme tout-terrain, et puis il a une dimension, il a un destin fascinant, ce mec. Donc après, effectivement, on peut revenir sur les affaires, et même si c'est pas le jour ni le moment, mais c'est un homme qui a fasciné plus d'un. Moi, j'ai des anecdotes, je vous disais, depuis hier, j'avais des témoignages, j'en ai pas mal, de gens qui me disaient à Seine, quand on faisait des campagnes et des élus marseillais, et qu'on allait dans les quartiers noirs à Marseille, et qu'il annonçait donc les stades synthétiques qui n'étaient pas encore plus ou moins répandus en France, et que l'année d'après, la région prenait une décision à tout hasard de faire des stades synthétiques, tout le monde dans les quartiers pensait que c'était parce que Bernard Tapie était venu pour une cité connue, la Castellane, annoncer ça, qu'on avait eu les stades synthétiques. Donc c'est un gars qui collait bien son temps, c'est un gars qui avait une gueule, qui a comme ça traversé, on disait, l'homme aux mille vies, qui a traversé un certain nombre de vies et qui a chamboulé les nôtres. Donc c'est quelqu'un qui collait bien son temps, qui a bousculé un certain nombre d'habitudes et de codes aussi.
Oui, parce que je pense que c'est pas non plus un hasard s'il y a autant de temps d'antenne qui lui est consacré. Je pense qu'il y a, peut-être que c'est trop, mais Sophie avait demandé la parole.
Il y a plein de choses. D'abord, j'aimais énormément Bernard Tapie. Je suis inconditionnelle d'un amoureux de la vie, avec tous les défauts que ça peut avoir. Le fait de passer d'un sujet à l'autre était d'ailleurs très symptomatique, comme vous l'avez dit, de ce qu'il était. Mais on peut quand même séparer aussi cette espèce d'unanimisme lorsque les gens meurent, qui devient insupportable. On ne peut pas y échapper. Et je ne comprends pas ça, parce que ça finit par décrédibiliser complètement ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on passe sous silence toutes les réalités de Bernard Tapie. Il y a un jugement qui va être rendu dans 3 jours. J'aimerais savoir comment ils vont faire.
L'action judiciaire a été éteinte.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Il aurait
pu être complètement...
Pardon ?
Non, pas sur le civil.
Pas sur le civil, non. Et puis en plus, je lisais ce matin que même sur l'héritage, je crois qu'il va falloir que sa famille se pose beaucoup de questions.
Ça veut dire quoi concrètement ? Parce que tout est saisi, il aurait pu tout récupérer dans 3 jours.
Je ne sais pas.
Sur
ce qui a déjà été jugé,
quand même.
Moi, je voulais dire 2 choses. D'abord, on ne maîtrise pas l'ampleur d'un phénomène dommage. Quand Johnny Hallyday est décédé, beaucoup de Français ne comprenaient pas qu'on fasse un tel hommage national à Johnny Hallyday. Ses fans, mais il y a eu une circonspection.
C'est devenu maladif,
pour que Emmanuel Macron et Brigitte Macron soient présents à la Madeleine pour faire un discours. Beaucoup de Français ne le comprenaient pas. Sauf à Marseille. Et je pense que il va y avoir vendredi à Marseille un événement d'ampleur nationale, parce que tout le peuple marseillais sera présent, c'est quasiment certain.
Mais on
peut considérer qu'à Marseille, c'est quand même deuxième ville de France, ce qui s'y passe d'ampleur importante compte pour tout le pays. Et je pense d'ailleurs qu'Emmanuel Macron doit se demander s'il ne va pas y aller.
Non.
À mon avis, c'est la question en tous les cas actuellement se pose. La deuxième chose que je voudrais dire, qui est peut-être anecdotique, mais pour moi est très importante dans la conception du capitalisme, c'est que je trouve que Bernard Tapie est une très grande qualité qui manque à notre société française au niveau business et économique, c'est qu'il a donné à la fonction de vente ses lettres de noblesse. Lui, il a commencé comme vendeur. Et toute sa vie d'acteur économique, il a créé des écoles de vente pour former des jeunes à devenir des vendeurs.
Enfin, si on tout ce que Bernard Tapie a fait.
Non, mais c'est important. Parce qu'on a une conception de l'entreprise qui est.
On met en avant
d'autres qualités que celle-ci. Et je pense que celle-ci, elle est très importante. Elle est beaucoup plus développée dans les pays anglo-saxons.
Et là-dessus, il a été très utile. Il aurait vendu du sable à des Bédouins.
Oui, mais c'est ça le capitalisme.
Est-ce que vous seriez favorable à ce que le stade Vélodrome s'appelle Stade Bernard Tapie?
Mais carrément.
Mais c'est carrément, pas possible, parce qu'il y a un sponsor, mais ça pourrait être Bernard Tapie. Bernard Tapie Belmondo.
Ça, ou le peut-être essayer de rebaptiser la commanderie, pourquoi pas. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il a sa place. Et d'ailleurs, je veux dire à Sophie de Menton que le dernier déplacement des joueurs de l'OM hier a fait que beaucoup de gens se sont déplacés, y compris des gens qui étaient des sympathisants du club de l'OM. Et il y en a combien de Parisiens sont devenus Marseillais de cœur grâce à l'ascension de Tapie avec l'OM. Donc, je pense qu'à un moment donné, voilà, il a aussi une dimension qu'on peut pas lui enlever et qui va au-delà de la cité phocéenne.
Bien
donc,
sûr.
J'ai envie de dire, c'est un peu normal parce qu'il a réellement marqué une génération. Et on est le seul club français à détenir cette étoile et cette victoire à l'heure encore où on se parle. Donc, c'est quand même extraordinaire.
Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On aura Frédéric qui nous appelle de Gironde au 0826-300-300 pour réagir à la disparition de Bernard Tapie. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats et l'hommage à Bernard Tapie ce matin avec vous, avec Alexis Bachelet, Christian de Villeneuve, Michel Taube et Sophie de Menton. Merci à Hassan Amou d'avoir été avec nous depuis Marseille. On a un auditeur, Frédéric, bonjour, qui souhaitait réagir. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais déjà vous féliciter pour votre émission.
Merci.
Je suis un inconditionnel.
Ah bah c'est
gentil. Je disais tout à l'heure à la personne que j'ai eue au standard que déjà je suis tout cœur avec vous quand vous relayez les tweets assez violents, virulents qui n'ont rien à faire dans un débat d'ailleurs.
Vous faites bien de le dire, mais bon, on a des modérateurs qui maintenant essayent d'empêcher les insultes parce que ça sert à rien.
Oui, bien sûr, ça sert voilà. Et ça ne fait même pas élever le débat.
Pour montrer la violence qu'il peut y avoir aujourd'hui parfois sur certains sujets comme celui de la vaccination par exemple. Parlons de Bernard Tapie, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Disons que j'ai plus aucune certitude depuis ce week-end.
Ouais. Pourquoi?
Parce que je connais pas personnellement, je connais qu'à travers les médias. Mmh. Et moi, les médias, depuis plus de 20 ans, plus que ça, ça a été que des histoires, en fait. Pour moi, c'était... Alors, je veux mesurer mes mots. C'est vraiment qu'une impression.
D'accord, moi, mais c'est intéressant parce que c'est une perception. Non,
mais c'est très intéressant parce que c'est la réalité
de beaucoup de Français.
C'est la réalité. Voilà. Pour moi, c'était un magouilleur fini, un escroc notoire. Ouais. C'était ça.
D'accord.
Mais c'est clair. Moi, je vous le dis, c'est à chaque fois que je voyais
parler... C'était un des côtés, une des facettes relayées par la presse, c'est vrai.
Exactement, c'est ça. Je me rends compte aujourd'hui qu'il a été assassiné pendant des années par la presse.
Oui, mais c'est ce que nous dit aussi un auditeur en disant les journalistes l'ont assassiné pendant des années et maintenant...
L'idolâtre est insupportable.
Et donc votre vision, elle a changé depuis qu'il est malade?
Non, la maladie, vous savez, soit vous le plaignez, soit vous vous dites, à un moment, c'est un juste retour des choses. Donc, c'est encore...
C'est dur, ça, quand même.
C'est pas mon ressenti à moi, mais vous allez en parler avec certaines personnes, ils vont dire, le pauvre, il mérite pas ça. Peut-être personne, il dit, quand on a été mauvais toute sa vie...
Tous ceux qui ont des cancers n'ont pas forcément été méchants toute leur vie.
Je vais vous dire, ce week-end, dans un premier temps, j'ai cru entendre le bal des faux culs, parce que tout le monde qui pleurait sur son nom après l'avoir dézingué, donc c'est le bal des faux culs. Et ce matin, j'ai entendu des proches parler, dont André Berkoff, dont je suis aussi un inconditionnel. Et je me dis, une personne comme Berkoff, je pense que s'il avait du mal à dire de lui, il aurait même peut-être pas pris la parole du tout.
Oui, oui, non, mais André va y revenir. André Bercoff connaissait très, très bien Bernard Tapie. Il a écrit un livre. Il connaît extrêmement bien l'affaire du Crédit Lyonnais. Donc, mais bon, chacun. Après, on peut pas nier ce qu'on était en train d'évoquer. Un homme, quand même, au destin hors du commun.
Il est ambivalent comme tous les êtres humains. Il est vraiment ambivalent.
Oui, oui.
Mais, il avait un charisme extraordinaire.
Incroyable. Et puis, Michel Attaube a tout à fait raison. J'aime ma boîte, il devrait être le parrain de ça parce que là, tout d'un coup, le goût d'entreprendre, le goût de l'entreprise, c'est lui qui l'a donné. Ben oui, mais attendez,
c'est ça,
on déteste tellement l'argent en France. C'est pas normal.
On parle argent, capitalisme, mais Alexis Bachelet, il a quand même été ministre de François Mitterrand. Donc, le fait qu'il ait adhéré à la gauche, ça a changé quoi?
Enfin, Mitterrand était un homme d'argent. Mitterrand était un homme d'argent.
Ça a apporté quoi à la gauche? Ça a apporté quoi à la gauche? Je voudrais qu'il me réponde, Alexis Bachelet, qui était au Parti Socialiste.
Je crois que François Mitterrand a saisi le potentiel de Bernard Tapie et surtout sa capacité à parler aux gens plutôt à gauche. Je pense que dans sa manière de s'exprimer, Bernard Tapie était capable de s'exprimer de manière simple, claire,
ouais, c'est très juste. C'est très juste parce que pardonnez-moi. J'ai écouté ce matin un certain nombre de réactions et quelqu'un a dit à un moment, lui, on le comprenait. Et ça, c'est
voilà. Oui, il disait la vérité.
Et je crois que d'ailleurs, ça plaisait pas trop au grand baron du PS à l'époque.
Exactement.
De voir le loup rentrer dans la bergerie et ils ont tout fait ensuite pour qu'il se casse la gueule. Donc la vérité, c'est que François Mitterrand avait compris que Bernard Tapie, en politique, allait casser les codes, comme il avait cassé les codes dans l'entreprise, dans le sport, et que ça pouvait lui servir au bénéfice de ce que lui voulait, François Mitterrand, c'est-à-dire réussir son deuxième septennat et essayer de continuer à s'adresser au plus grand nombre, et en particulier aux électeurs de gauche, et en particulier dans les électeurs de gauche, les électeurs populaires, qui, on le sait, ont décroché dès le premier septennat suite aux mesures d'austérité. Et ensuite, ça a été très compliqué. Le deuxième septennat de François Mitterrand, de ce point de vue-là, a été très compliqué. Et François Mitterrand s'est dit que peut-être Bernard Tapie pourrait être un allié. Et malheureusement, si je puis dire, la carrière de Bernard Tapie a été météorique parce qu'il a été élu député en 1989. Il a été ministre, mais quelques mois, ministre de la Ville. Mmh. Et puis après, il a été aux Européennes aussi, puis à nouveau député. Mais c'est vrai qu'on peut dire que là où il a le moins réussi, c'est en politique finalement. Même si je retiens quand même qu'il avait réussi à la fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il était ministre, il avait dit qu'il faut mettre le chômage hors la loi.
Oui, oui.
Donc évidemment, c'était une formule, mais il y a des gens à qui ça avait pu parler, et puis il avait quand même fait un résultat plus qu'honorable, puisqu'il avait été devant la liste de Michel Rocard aux élections européennes de 1994, dont on se souvient aussi que l'objectif était peut-être pour François Mitterrand de régler quelques comptes avec son ancien Premier ministre, et Bernard Tapie a été aussi l'outil de cela. Un dernier mot pour dire que s'il a marqué les esprits, je pense que c'est d'abord parce qu'on peut considérer que c'était un fabricant de bonheur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans la capacité à produire des émotions très fortes. Et après, on va dire que c'est un peu comme la drogue, si vous voulez. C'est qu'il y a des effets secondaires, voilà. Et que quand vous êtes, quand vous sortez de là, vous avez un peu la gueule de bois. Et donc les gens, qui sont aujourd'hui contre Tapie, il y en a quand même. Ils vont dire, oui. Mais c'était aussi un fabricant d'illusions et finalement, il a cassé tous ses jouets. Il a cassé l'OM qui est allé en Ligue 2 après avoir gagné la Coupe d'Europe. En politique, il a abîmé l'image de la politique, etc., etc. Et il a abîmé même aussi l'image des entrepreneurs parce que c'est vrai qu'on peut être entrepreneur sans forcément casser les boîtes, licencier. Voilà, c'est un personnage très, très contrasté.
Il était aussi un homme de gauche. Alors d'abord, plus précisément, il était membre du Parti radical de gauche. Il était député européen du Parti radical de gauche. Je crois que jamais le Parti radical de gauche a eu autant d'élus que sous liste qu'il avait montée pour les européennes de 89, je crois. Le deuxième choix, il était de gauche aussi sur une autre question qui le rendait épidermique, c'est la question de l'immigration. Il faut quand même rappeler qu'il a été un champion de la lutte contre contre Jean-Marie Le Pen, qui lui a quand même tenu tête, et c'était quand même un des seuls hommes politiques qui a réussi à prendre le dessus sur Jean-Marie Le Pen en termes de combat politique. Et je revoyais le petit duel qu'il avait eu avec Éric Zemmour il y a 3 ans, dans Nolo et dans Nolo et Zemmour, où ils s'étaient affrontés tous les deux justement sur la conception.
Ouais. On va vous repasser cet extrait que Gilles Danzouen avait sélectionné dans le zapping. On va marquer une pause. D'accord. et on va y revenir. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats, l'hommage à Bernard Tapie ce matin. On en parle avec vous, avec Alexis Bachelet, Christian de Villeneuve, Michel Taube et Sophie de Menton. Michel Taube, vous évoquiez cet affrontement entre Éric Zemmour et Bernard Tapie. Je vous propose de le réécouter.
La multiplication des cultures, des origines et des gens. Excuse-moi, ne dis pas ça parce que c'est de la connerie. Je voudrais que tu sois avec ta sucette bleu blanc rouge jusqu'à la fin de tes jours.
Vous êtes dans le discours multiculturel. Vous êtes dans le discours multiculturel. En plus, la richesse, allez parler à Sevran, à Vitry-Gardon.
Mais j'y habitais, pas toi.
Si, moi j'ai habité à Drancy. Alors
non, Drancy, tu connais. T'as pas vu un Algérien de ta vie. Moi j'ai bossé là-bas, j'étais avec eux.
Vous parlez comme Arlène Désir, ce qui est une catastrophe.
Non, pardon.
Si, la richesse des cultures. Non, mais allez parler dans les banlieues de la richesse des cultures. Je dis pas de conneries, c'est vous qui dites des conneries.
Mais non, parce que sinon tu vas continuer de raconter chaque fois la même musique.
Mais c'est vous qui dites toujours les mêmes conneries depuis 30 ans.
Là, tu es obligé, là. Tu peux pas faire autrement.
Faites pas le bordel, voilà. Vous avez 30 ans de retard, Tapie. Ça, c'est les années 80. Aujourd'hui, fais pas le bordel, l'ordre règne. Tu sais, l'ordre règne dans les banlieues, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de français, il souffre plus.
Objectivement.
Je crois que le mec le plus malheureux, c'est toi.
Mais vous avez 30 ans de retard.
Tu vas mourir sans savoir.
Mais vous êtes un ringard, vous avez 30 ans de retard.
Attention, parce que toi aussi, je vais me lever, je vais t'en mettre une. Non, je suis un ringard.
Voilà, je vais me lever, je vais t'en mettre une.
Ouais, voilà. Alors d'abord, Éric Zemmour.
Rien n'a changé.
D'abord,
hein.
Oui. D'abord, Éric Zemmour a rendu un hommage que j'ai trouvé très gentleman hier sur Twitter, un tweet de salutation à l'artiste Bernard Tapie. Et effectivement, je pense que Bernard Tapie est quand même, enfin, ça a été une de ses constantes toute sa vie de se battre contre l'extrême droite et de dire plutôt que de dénoncer l'immigration, misons sur l'ascenseur social. C'était ça, en
et
fait,
même pour les
le sens
jaunes,
politique.
Il a réagi
et c'est pour ça que c'était un homme de gauche. C'est pour ça que c'était un homme de gauche. C'est qu'en fait, c'est aussi son choix de Marseille. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'il aurait pu décider d'investir dans d'autres clubs à la limite. Donc il y avait chez Bernard Tapie une constante de se dire l'ascenseur social, c'est ça qui va sauver notre pays plus que des questions d'immigration, de culture, etc.
Il était porteur mais d'un humanisme. Je suis pas sûr que cet humanisme soit de gauche.
Ben évidemment, la gauche n'en a pas le monopole, comme disait Giscard.
Enfin, ce rapport à l'argent,
la gauche n'a
pas
le monopole du cœur. Mais c'était quand même une des grandes réussites de Bernard Tapie.
Parce
et je trouve
gauche
que la gauche
aurait aimé
l'a un petit peu
entrepreneurial.
Oublié. Quoi.
Bon, on va changer de sujet. Je pense qu'André Bercoff y reviendra tout à l'heure. Va reparler de sa relation. C'est intéressant d'avoir été dans l'intimité, dans la proximité de
Bernard Tapie. Un petit mot quand même. Le dernier sur Bernard Tapie. J'avais un dîner avec lui et Edgar Faure qui était mémorable. Edgar Faure avait
c'était
dit de vous dire.
C'était au siècle dernier.
Le siècle dernier. Oui, j'étais très jeune, mais quand même. Edgar Faure avait dit j'aimerais bien connaître ce jeune homme. Et donc, ce dîner, il était là, c'était un peu tendu au début et on essayait de mettre du lien. Puis tout d'un coup, ils sont mis à chanter, Edgar Faure et lui. C'était extraordinaire. Et puis, tout se détend. Et donc, on voit Bernard Tapie qui dit à Edgar Faure, bon, alors, et s'il fallait faire de la politique aujourd'hui, il faudrait être quoi? Il faudrait être à droite ou à gauche? Et Edgar Faure réfléchit une minute et dit, bon, aujourd'hui, il faudrait être à gauche, je crois. Et c'est quand même un truc extraordinaire.
Ouais. Et c'était, oui, et l'époque.
Et c'était pile l'époque, c'était avant qu'il soit en politique.
Ouais. Et moi, j'ai un souvenir où je l'ai croisé, on enregistrait une émission de télévision à la piscine de Ligny, et il n'y avait pas de loge. Et donc, c'était des autobus qui étaient là, il y avait deux bus, et je me suis retrouvée avec lui, et il s'est assis au volant en disant qu'est-ce que j'aurais aimé être conducteur de bus.
C'est très sympa. Et on
plus.
Le croit en plus.
J'ai toujours rêvé. Oui, non. Et puis il était très cash. Et puis quand j'étais sur LCI, il appelait régulièrement quand il n'était pas content manière dont on parlait de lui. Dans l'oreillette, la première fois, quand on vous dit on a Bernard Tapie en ligne, vous dites Bernard Tapie, le Bernard Tapie. Oui, c'était lui. Et il appelait en disant mais là, vous avez dit des conneries. Et il rétablissait le truc comme il faisait avec vous et régulièrement. Et Pascal Praud raconte aussi qu'il lui a mis son poing dans la figure un jour. rue Marbeuf, il le croise dans un magasin de vêtements, il avait dû dire des choses qui lui avaient déplu, et il lui a mis son poing dans la figure. Donc,
ce qui n'a pas empêché Pascal Praud de lui rendre hommage hier, toute la journée sur CNews.
Mais ils sont réconciliés, ils avaient renoué un lien assez proche. On va passer peut-être aux autres sujets de l'actualité, faire un tour de table, ce qui a pu retenir votre attention aux uns et aux autres. Sophie, c'est beaucoup plus futile, mais néanmoins,
Mais j'ai quand même un coup de gueule, là, parce que ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Il y a la Fashion Week à Paris, et il faut s'en réjouir, parce que la mode est un vrai secteur, c'est formidable, il faut rendre hommage à Bernard Arnault, LVMH, plus grand groupe mondial, etc. Mais je n'en peux plus de la laideur de la mode. Mais il y a une déconstruction. Mais regardez, là je parle aux femmes, regardez les images des collections. C'est trash, c'est moche. Il y a une interdiction pour tous les mannequins, évidente, hein, c'est de sourire. Ouais. Il n'y a pas un sourire sur une photo de mode dans un magazine. C'est désespérant, c'est noir, c'est triste. On leur met des cheveux de toutes les couleurs, elles sont tatouées jusqu'à la pointe des pieds. Ouais. Je veux dire, il y a un moment, et ce qui est très grave, c'est que c'est aussi un pas vers la culture woke, qui est une véritable menace pour l'humanité. Pourquoi ? Parce que il faut... alors d'abord, maintenant, on commence effectivement, et c'est bien, pourquoi pas, à mettre des gens de toutes origines, etc. Mais il faut mettre des obèses, il faut mettre, etc. Il faut mettre le reflet de ce qu'il y a...
Mais pourquoi pas ? Ça, pour le coup, est-ce que c'est critiquable ?
Oui, alors j'ai envie de rêver. Non. La mode, j'ai envie, c'est vrai.
La critique que je ferais plutôt qu'en voyant le défilé Saint-Laurent, c'est de voir cette mode crayon. C'est-à-dire que les filles ont des jambes qui sont maigrissimes.
Oui, alors c'est ça que j'ai dit.
On nous avait dit qu'il fallait les grossir. Oui, c'est vrai. Un IMC, un indice de masse corporelle... plus
élevé. Mais ça va dans le reste, c'est une exagération totale et c'est une forme de laideur. Parce que
il y a toujours eu une dimension provocatrice.
Non, regardez la mode, les new looks de Dior, il y a eu quand même, on rêvait devant les collections, on avait envie d'acheter. Là, c'est le prêt-à-porter d'ailleurs qui donne envie d'acheter, c'est plus du tout la haute couture. Donc je ne sais pas ce que c'est devenu, je ne comprends pas cet emblème et je trouve qu'on est au bout de la déconstruction.
Après que des femmes fortes défilent, que des femmes aussi handicapées, il y a eu un très beau défilé la semaine dernière de femmes handicapées, on en a fait un article dans Opinion Internationale où il y avait vraiment de la beauté qui rayonnait et les mannequins, d'après ce qu'on m'a dit, moi je n'y étais pas, mais c'est Déborah Rudetsky qui a été, elle souriait. Oui, et là je suis d'accord avec vous, Sophie, c'est pas normal qu'elle ne souriait pas, là je suis d'accord, ça montre bien qu'il y a une forme de pathologie.
La publicité pour Alexander McQueen, c'est une robe qui est comme tachée de sang.
Non, en revanche, dans la culture woke, il y a des excès. Mais je crois que Valérie, vous en avez parlé la semaine dernière.
Pas de voir des excès, c'est monstrueux.
Assa Traoré.
Ça n'a pas de lien avec la mode.
Je suis désolée parce qu'elle porte maintenant des marques, pas du tout.
Et Louboutin.
Non, c'est ça. C'est
elle qui avait les chaussures Louboutin.
C'est
un scandale.
Absolument. Et ça, c'est inadmissible. Parce que son seul fait de gloire, c'est de vomir la France et les Français à longueur de journée. C'est ça son seul fait de gloire. Et donc, si vous voulez, le fait de défiler, je n'en vois pas la raison.
Elle n'a pas défilé, je ne pense pas qu'elle ait
défilé. Elle est légérée de plusieurs marques et elle a été invitée à de nombreux défilés. Je trouve que cela n'est pas normal.
Oui, moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est la mode du fichu ou la mode des cagoules qui revient.
Tout à fait.
De se poser des questions. Alexis, vous avez un avis sur la mode ?
Je vous écoute.
Oui. Vous n'avez rien à dire.
Ah oui, mais c'est un avis sociologique.
Oui, absolument. Alexis, vous aviez un coup de cœur.
Oui, moi je vais revenir à des sujets un peu plus fondamental, excusez-moi.
Les enjeux de valeur, les enjeux de liberté,
ça se passe partout dans la société, dans la mode, dans l'alimentation, dans le sport.
La déconstruction à ce point-là, la laideur, en Algérie, et ça va parallèlement avec l'art contemporain. C'est-à-dire que plus on déconstruit, là, il y a un rapprochement d'ailleurs entre une certaine forme d'art contemporain, parce qu'il y en a un magnifique. Mais...
Laissez parler Alexis.
On voudrait son avis.
Oui, non, mais moi j'étais sur un sujet, je voulais revenir, parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire à l'antenne de Sud Radio, et donc je remercie Valérie de me donner cette possibilité de saluer quand même la candidature de Yannick Jadot à l'élection présidentielle, qui est justement une candidature de reconstruction et non pas de déconstruction, d'une nouvelle manière, on va dire, de traiter la planète et d'envisager quand même sur ces sujets-là qu'on passe un petit peu la vitesse supérieure compte tenu de la gravité de la situation. On sait que Marseille est sous les eaux. C'est la situation, les grands phénomènes climatiques se multiplient, le prix de l'énergie, enfin tous ces sujets qui, il y a quelques années, faisaient sourire parce que les écologistes l'abordaient d'une manière parfois un peu alarmiste. Aujourd'hui, on est passé de l'alarme à l'actualité. Donc je pense qu'effectivement, en tout cas c'est mon souhait, que Yannick Jadot pourra incarner une présidence écologiste dont notre pays aurait bien besoin, et pas que notre pays d'ailleurs, parce que le sujet il est évidemment mondial.
Une mais, candidature pour commencer, hein. La présidence,
voilà,
on en est encore loin.
Oui, bah, une candidature, il fallait gagner la primaire, voilà, c'était pas évident. Donc il l'a fait, et j'espère qu'il va continuer à faire une bonne campagne et à proposer aux Français un autre chemin.
Bah écoutez, c'était votre coup de cœur. On va y revenir, on va revenir à notre tour de table dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio, nous avons parlé de Bernard Tapie. L'article de Sophie de Menton dans Challenge sur cette rencontre avec Edgar Faure est à lire. Christian de Villeneuve, vous, c'était un... Ah bah, peut-être non, Michel, parce que Christian, ça nous fera peut-être débattre un petit peu plus longtemps.
Oh, moi, c'était, oui. C'était bon...
Oui, j'ignorais d'ailleurs.
C'était un hommage à Lars Vilks, qui est un de ces caricaturistes qui ont caricaturé Mahomet en 2007. Et à partir duquel, alors c'est pas ces caricatures à lui qui ont été reprises par Charlie Hebdo et qui ont ensuite entraîné ce que l'on sait, mais il est un des deux, trois caricaturistes qui a payé toute sa vie très très cher le fait d'avoir osé blasphémer ou tout simplement fait exercer sa liberté d'expression. Il est mort ce week-end dans un accident de voiture, semble-t-il. Ceci dit, il y a encore une enquête qui a lieu. Mais moi, j'aimerais juste insister sur un point, c'est qu'en 2015, un islamiste avait failli l'assassiner dans une réunion publique à Copenhague, où était présent également l'ambassadeur de France, Françoise Imrée. Et Françoise Imrée avait failli mourir, enfin, comme les autres personnes dans la salle. Et juste pour la petite anecdote, mais c'est important, ça en dit long quand même aussi sur l'attitude de la diplomatie française vis-à-vis de, notamment de ces diplomates, c'est qu'en fait, Françoise Imrée, il l'a souvent dit, notamment à la une de mon média, mais ailleurs, n'avait pas trouvé beaucoup de soutien auprès de l'État. Notamment de François Hollande, alors qu'il, encore une fois, il y avait eu un attentat terroriste dont notre ambassadeur avait failli mourir, et Lars Vilks également qui est décédé ce week-end. Lorsqu'Emmanuel Macron est devenu président de la République, il a un peu rétabli les choses, mais voilà. Donc je voulais rendre hommage à ce monsieur qui, depuis 20 ans, était sous très haute protection policière et a une vie complètement bouleversée par ce que l'on sait.
Oui. Christian de Villeneuve, vous, c'était un coup de gueule.
Oui, moi, j'en ai assez de la zémorisation du débat politique français. Je trouve qu'on accorde une place beaucoup trop importante au traitement de l'immigration. Certes, je suis d'accord qu'il faut une meilleure façon de la réguler, mais cette obsession sur l'immigration nous empêche complètement, on empêche les leaders de traiter les problèmes de formation, les problèmes d'éducation, on les traite pas, on n'en parle pas. Donc, je pense que c'est très, très préjudiciable. Sans compter, et ça, ce sera un thème de débat.
Elle n'a pas vraiment commencé la campagne d'ailleurs. Bah, c'est la campagne des candidats pour l'instant.
Zemmour, c'est pas tellement de l'immigration qu'il parle. Il parle du problème de l'islamisation de la société française, qui n'est pas exactement la même chose.
Quand il parle de la réimmigration,
c'est pas exactement la même chose. Non, non, non. Aussi.
Et vous allez voir qu'il va de plus en plus, parce que s'il veut se présenter, il va devoir tenir compte aussi de l'électorat français de confession musulmane. Et il commence, moi je trouve que de démission en démission, il commence à faire la part entre l'islam radical et les citoyens français musulmans. Pas encore beaucoup, mais vous allez voir, il va le faire de plus en plus. Mais c'est
pas du tout.
Vous l'écoutez même plus tellement vous le dénoncez, mais il a commencé à le faire. Je suis pas d'accord. Dans le débat avec Mélenchon, il a commencé à faire la part des choses.
Vous dites on confisque le débat, mais ce matin, Michel Barnier était sur... sur Sud Radio, il propose un moratoire sur l'immigration.
Bah oui, voilà,
Zemmour est à 15%. Il y a un sujet.
Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet. Il est évident qu'il faut mieux réguler cette immigration, en particulier l'immigration clandestine. Mais moi, je pense que c'est pas le problème numéro un des Français. Je pense que c'est vrai que c'est vrai dans certains quartiers de la région parisienne, c'est vrai dans certains quartiers des grandes villes, mais je suis pas sûr qu'à La Roche-sur-Yon, à Vierzon ou à La Baule, l'immigration soit le problème principal.
Demandez à Cavaillon, par exemple, demandez dans plein. Non, je pense que malheureusement, il pose un vrai problème.
Christian, c'est quelque chose qui est un constat, en fait, qui ne devrait même pas être contestable. Je suis étonné que certains, sur le plateau, essayent de d'édulcorer cette analyse, comme si Zemmour allait dans la nuance et dans la finesse.
Michel dit qu'il
il fait le distinguo entre les islamistes et les citoyens français musulmans. Non, il ne fait pas du tout le distinguo. Au contraire, il perçoit, il l'a dit d'ailleurs, la présence de l'islam en France comme contre-naturel et dangereux pour l'avenir de la civilisation.
Oui, c'est comme ça qu'il le dit.
Et donc, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que les 5 millions de Français de confession musulmane, dont d'ailleurs certains sont pratiquants, mais beaucoup ne le sont pas, il y a une minorité évidemment qui est islamiste, c'est possible, elle existe, mais c'est pas la majorité. Et donc, eux, ils se sentent comment? Ils se sentent mal quand ils entendent Éric Zemmour. Et quand derrière, les hommes politiques reprennent systématiquement les mêmes thèmes, et toujours pour s'aligner en réalité, parce que, pardon, mais il y a très peu aujourd'hui de gens qui disent, comme le faisait Bernard Tapie, non, Zemmour, il nous emmène dans le mur, c'est pas possible. On peut pas imaginer passer tous nos débats à stigmatiser le problème des noms de famille, donc voilà, à un moment, des noms, des prénoms, par exemple.
Oui.
En gros, il dit quoi, Zemmour? Il dit, bon, si tu t'appelles Jamel, Mohamed ou Fatima, bah, tu peux pas être français. Voilà, c'est ça, il le dit clairement. Voilà, c'est comme ça qu'il le dit. Il dit les immigrés, il y en a trop, il faut les renvoyer chez eux et si possible par charter. Bon, voilà. Et puis il dit quoi?
C'est ce que Macron a décidé cette semaine en réduisant de moitié les visas.
Il remet en cause aussi l'état de droit. Enfin, clairement, il fait fi des conventions internationales.
Les pays, certains pays en font fi parce qu'ils n'acceptent pas de prendre les ressortissants qu'ils devraient accepter et qu'on leur renvoie.
Non, mais ça, d'accord.
Oui, mais ces conventions, elles ont été adaptées dans un autre monde.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème sur le renvoi des clandestins. On a un taux de renvoi qui est extrêmement faible, mais il y a des raisons juridiques et politiques.
Oui, c'est vrai.
Peut-être qu'il faut trouver des solutions, d'ailleurs, qui ne sont pas uniquement françaises, mais diplomatiques, vous l'avez compris. C'est d'ailleurs pour ça que Macron a réduit le nombre de visas, et je pense qu'il a raison. Parce qu'à un moment donné, il faut envoyer un message aussi dans un certain nombre de pays.
C'est bien un homme de gauche qui veut réduire le nombre de visas de nos amis du Maghreb.
Non, je n'ai pas dit ça.
La démoralisation,
je dis qu'à un moment donné, quand on a tout essayé, il faut essayer autre chose. Mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle que des sujets mis à l'agenda par Éric Zemmour. C'est-à-dire immigration, insécurité, islamisme. On ne parle que de ça. Est-ce que la campagne présidentielle, ça peut être ça? Non. Il y a 4 millions de chômeurs. Il y a 12 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Il y a des enjeux sur l'écologie, sur l'emploi, sur la formation, sur l'éducation. Et là-dessus, Zemmour, il n'en a rien à foutre. C'est pas son sujet. Et donc, si on laisse faire, on va continuer à parler que d'immigration, d'identité, alors qu'il y a d'autres problèmes en France et que la France, elle a un rôle à jouer aussi pour montrer quand même ce que c'est qu'être un état de droit, une grande démocratie. Mmh. Et si on laissait aller Zemmour au bout de la logique, on ne serait plus ni l'un ni l'autre.
Depuis quelques jours, le débat s'est quand même un peu déplacé sur les questions de pouvoir d'achat et on parle déjà moins de ces questions-là. Ce que je voulais dire, c'est que évidemment, Zemmour a tort de stigmatiser nos concitoyens de confession musulmane, qu'on soit bien clair. Mais je pense qu'il pose des vraies questions. Ils sont dans les préoccupations de nos concitoyens et qui correspondent à des réalités françaises qui sont de plus en plus développées. Donc il faut trouver un équilibre et c'est vrai que le constat de Zemmour n'appelle aucune solution, et on n'est pas candidat à l'élection présidentielle pour témoigner ou pour régler des questions d'histoire, on est là pour faire des propositions et changer la donne, donc ça là-dessus évidemment, mais c'est vrai que Zemmour n'est pas là pour rien. Et je pense qu'il faut vous s'attendre à ce qu'il soit là encore un certain temps, parce que les questions d'identité et d'insécurité sont parmi les grandes préoccupations
mais
de nos concitoyens.
Mais pas la principale, c'est ce que dit Frédéric Dabi à chaque fois qu'il vient. Dans les préoccupations des Français, il y a la santé, le pouvoir d'achat, l'immigration arrive, arrive ensuite.
Et d'ailleurs, je voulais dire bravo à l'Académie Nobel qui a décidé aujourd'hui, qui vient d'attribuer le prix Nobel de médecine, et ils ont décidé de ne pas l'attribuer aux porteurs de l'ARN messager. Donc l'Académie n'a pas cédé au tout Covid et vient d'attribuer le prix Nobel à des découvreurs dans les questions du système nerveux.
Merci à tous les quatre, merci à vous pour cette émission. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.